Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis avec Jean-Paul Poirier, un de mes confrères de l'Académie des sciences, qui est géophysicien, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ou de très loin. Nous allons parler de Pascal d'une manière un peu atypique, puisque je pense que si Pascal nous écoutait, il serait le premier surpris. Nous allons vous parler des lettres que Pascal a écrites ou aurait écrite à beaucoup de savants importants, dont Newton, ce qui est pour le moins surprenant. Alors tout ça fait partie d'une belle histoire que tu vas nous raconter, qui prouve à quel point les plus grands scientifiques peuvent être de grands naïfs. Alors est-ce que tu pourrais commencer par nous résumer cette aventure du naïf Charles ?
Eh bien, Charles, qui était connu comme étant un très brave homme, qui inspirait la sympathie à tout le monde, et qui était également un grand mathématicien. Et sa passion, à part les mathématiques, était de collectionner les autographes. Donc il avait toute une collection extraordinaire d'autographes de tout le monde, de tous les gens importants qui ont jamais existé. Il avait un fournisseur d'autographes, quelqu'un qui disait « Oh, mais moi je connais un vieux monsieur qui a des fonds extraordinaires, mais dont il ne peut pas se séparer, mais enfin bon, je peux réussir à en avoir. » Et donc il avait, comme ça, il avait vendu à Charles 27 000 autographes en 7 ans. Bon, pour une somme rondelette.
Tous faux.
Ah, tous faux, bien sûr.
Alors, pour illustrer cette histoire de faussaire, il m'a semblé que la chanson célèbre des Platters du milieu des années 50, intitulée The Pretender, l'imposteur, eh bien, me semble parfaitement adaptée à la situation. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own, I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone.
Et donc Charles était, qui était un homme charmant et généreux, il disait, bon, il a dit, mais je vais en offrir deux à l'Académie. C'était un petit peu sur la suggestion du président d'offrir deux ou trois lettres de Pascal, dont une de Pascal qui écrivait à un jeune homme de 11 ans. Pascal n'était pas très vieux à l'époque, il avait une trentaine d'années. Un homme de 11 ans, il disait, mon jeune ami, on m'a appris que vous intéressiez aux sciences, et en particulier à l'attraction, etc. Alors écoutez, je vais vous envoyer...
quelques conseils.
Oui, c'est ça, en gros, quelque chose que j'ai qui pourra peut-être vous intéresser, enfin que j'ai écrite, des notes, bon. Et alors, il avait écrit ça à Boyle, qui était un des grands physiciens de l'époque, et en lui disant, mais écoutez, voilà... Moi, j'ai reçu un mot d'un jeune homme qui s'appelle apparemment Isaac Newton, mais bon, est-ce que vous pouvez m'en dire davantage? Parce qu'il a l'air vraiment très bien, je lui enverrai des choses, etc.
Je te propose qu'on la lise.
Eh bien, on va la lire.
Je vais la lire. Donc, le 2 septembre, on ne sait pas trop quelle année, puisque le faussaire, c'est un malin qui faisait attention à...
Oui, c'est vers 1650, je crois.
Alors, ouais. Il écrit « Monsieur ». Donc, c'est censé être Pascal qui écrit à Boyle. « Dans le mouvement céleste, la force agissant en raison directe des masses et en raison inverse du carré de la distance suffit à tout. Et fournit des raisons pour expliquer toutes les grandes révolutions qui animent l'univers. Je suis, monsieur, votre très affectionné Pascal. »
c'est cette lettre-là qui a démarré tout. C'était en 1867. C'était au mois de juillet. Et donc tout ça s'est déroulé entre le 8 juillet 1867 et puis septembre 1869, ou à peu près pendant 2 ans. Charles offre ses lettres académiques qui sont lues en séance. Et il y a un physicien dans la salle, Jean Duhamel, qui avait fait des travaux en acoustique en particulier, etc., qui dit « Mais non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. » Parce que comment Pascal pouvait-il dire à cette époque-là que ça suffisait à tout et qu'on pouvait tout montrer à partir de ça? C'est pas vrai. Il pouvait pas montrer que les trajectoires étaient des conique. Il pouvait pas montrer. Non, il n'avait pas les données suffisantes pour ça, qui ont été découvertes après, et
Parce que pour nos auditeurs, Newton n'a pas seulement inventé la gravitation, il a découvert la loi de la gravitation universelle. En passant, c'est un gros en passant, il a inventé aussi le calcul différentiel et intégral.
Ben voilà. Et donc en partie
indispensable.
Donc alors, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire parce qu'il ne connaissait pas les expériences, mais aussi sans calcul différentiel et intégral, il ne pouvait pas montrer que les trajectoires étaient des coniques. Mm-hmm. Bon. Et donc Duhamel dit non, ça c'est pas possible. Alors Charles truc mais si parce qu'il peut. Et puis d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai d'autres lettres qui montrent qu'il savait bien ça. Et que, alors, ça va comme ça, tous les lundis, il y avait des objections de Duhamel et puis d'autres aussi, des astronomes, etc., qui disent non, ça marche pas. Et tous les lundis, il revient avec une moisson de lettres. Alors, tu peux nommer n'importe qui de connu à l'époque, savant, littérateur, etc. Il y avait toujours une lettre d'un tel à Pascal, de Pascal à un tel, qui montrait que si, il avait connu.
Toujours avec Pascal.
Toujours avec Pascal.
Et ça n'est que plus tard qu'il y avait des lettres qui mettaient en relation d'autres personnes.
Ah, oui.
Parce que par la suite, il a fait
oui, c'est ça, mais là, Jésus-Christ. Mais là, c'était pas Pascal.
Voilà.
Mais donc, il a toujours... Alors, chaque fois, il y avait une réponse. Et alors, ça ne persuadait pas les physiciens. Et en plus, alors, le problème, c'est que pendant ce temps-là, il y avait un spécialiste de Pascal qui avait édité, d'après les manuscrits, les pensées. Et donc, il s'appelait Fauvert. Et donc, là, il a dit, mais non, c'est pas possible. Il a demandé, là, Charles était très généreux, il a demandé à voir les manuscrits, Charles lui a montré, parce qu'il était tellement persuadé que c'était vrai, qu'il n'avait pas à se cacher.
Donc, ils ont comparé les écritures.
Alors, ils ont comparé, l'autre a dit, il suffit qu'il regarde, il dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas l'écriture de Pascal, ce n'est pas sa signature, c'est impossible. Bon, et lui, il connaissait bien... Mais non, Charles a dit, elle avait plein de lettres de Pascal, et puis de tous les scientifiques, les littéraires, etc., qui ont écrit pour montrer que c'était bien ça. Et donc, ça traînait. Alors, à un moment donné, il y avait des lettres de Newton à Louis XIV, pour s'excuser un petit peu d'avoir un petit peu piraté.
En français, bien sûr.
En français, bien sûr. Bon. Des réponses de Louis XIV, enfin bon. Il y avait un tas de lettres comme ça, et puis tout le monde littéraire et scientifique avait tout chacun une lettre pour répondre à une objection qui s'était faite un lundi de l'Académie.
Tout le monde se moquait de Charles, non?
Mais non. Parce que, d'abord, ça a persuadé un certain nombre de gens. Charles était un homme charmant, très, très sympathique. Donc, il inspirait la sympathie. Donc, on ne pouvait pas, c'était pas un type dont on aurait eu plaisir à descendre en flammes. Donc, on disait bon. Mais alors on dit, on ne comprend pas, et puis chaque fois les gens étaient impressionnés par la quantité de choses qui arrivaient à l'appui de la thèse de Charles. Et donc c'était tous les lundis, c'était pratiquement l'ordre du jour n'était bousculé, tous les lundis on ne parlait que de ça.
La fin d'histoire.
Pretending that you're still...
Alors la fin de l'histoire, c'est qu'il y a eu des lettres de Galilée, il y a eu des lettres de tout le monde, et la fin de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, les Anglais aussi, le spécialiste Brewster, qui était un grand physicien, mais le spécialiste de Newton, la biographie de Newton, a dit non, ça n'existe pas. Dans la correspondance de Newton, il n'y a pas une seule lettre de Pascal. Enfin bref, C'est devenu Galilée qui écrivait, mais non, c'est pas possible. Il était déjà aveugle à ce moment-là, et puis il écrivait en français. Galilée n'a jamais écrit en français, il écrivait en italien. Bon. Au bout d'un moment, alors que tout le monde était persuadé à l'Académie, sauf deux personnes.
Persuadé de quoi? Que c'était des faux?
Oui, tout le monde était convaincu que c'était des faux, ça, mais on n'en voulait pas à Charles, mais enfin bon. Sauf deux personnes qui étaient Élie de Beaumont, qui était un géologue, et Ballard, qui était, à l'époque, il n'était pas connu pour la station de métro, mais il était connu pour avoir quand même isolé et découvert et isolé le brome. Et donc, ces deux-là, puis, aimaient bien Charles, et puis ils étaient convaincus par l'abondance de ces documents. Or, en fait, ce qui se passait, c'est que ce faussaire venait chez Charles tous les lundis, petite visite amicale, et Charles lui dit, oh, écoutez, bon, voilà, encore, on m'a objecté ça, ben, alors vous avez tous ces papiers, là, ces lettres du vieux monsieur, là, qui veut pas s'en séparer, ben, est-ce que vous y avez accès, vous pouvez pas regarder s'il y aurait pas par hasard une lettre qui répondrait à ces objections.
Et, il y avait toujours
coup,
ce qu'il fallait.
Du coup, et il arrivait avec au moins deux ou trois lettres qui répondaient à ces objections. Alors, c'est Le Verrier, et qui n'était pas un sentimental, lui, mais qui a fait pratiquement un réquisitoire contre Charles, en montrant que c'était pas possible. Charles, c'est lui qui a demandé qu'on arrête ce faussaire, ce Lucas, parce qu'il avait peur finalement qu'il s'en aille avec
tous ses
manuscrits. Bon, donc lui est resté convaincu jusqu'au bout qu'ils étaient authentiques. Et donc voilà. Donc finalement, il a été arrêté. Et il a été, il y a eu un procès en 1870, et un procès qui a fait rire tout le monde, parce qu'effectivement, là, on a montré qu'il y avait toute une correspondance. Il y avait des lettres, d'Aristote à Alexandre, des lettres de Socrate à Euclide, tout ça, des lettres de Lazare à Marie-Madeleine, enfin tout ça en français. Toute la correspondance d'Héloïse et d'Abélard, enfin, tout ça en français, mais il y avait l'explication. C'est que, bien sûr, c'était pas en français, mais ça avait été récupéré par Alcuin, et puis à l'abbaye de Saint-Martin, je crois, et puis ça avait été traduit en français par Rabelais. Bon, alors, donc, d'accord. C'était normal. On peut être naïf, mais pas à ce point-là, quand même. Bon. Donc, voilà. Et donc, il a été condamné à 2 ans de prison. Bon. Et alors, c'est extraordinaire parce que il avait écrit 27 000 faux documents qui demandaient un travail considérable. Il passait ses journées pendant 7 ans à peu près. Il passait ses journées à écrire, à se documenter parce qu'il fallait quand même avoir des, il recopiait des documents, des choses. Il passait ses journées à ça. Mais, et alors le président du tribunal lui dit, mais enfin, 27 000, le truc, ça demandait du travail 24 heures sur 24 pendant 7 ans, et vous avez vendu tout ça pour 140 000 francs. Or, alors qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que vous n'aviez pas le temps de vous livrer à un temps d'occupation, puisque vous travailliez toute la journée dans les bibliothèques pour écrire. Et alors il a dit, j'ai éprouvé des malheurs.
Et puis, éprouver des malheurs.
Et il s'est arrêté là. On n'a jamais su ce qu'il avait fait avec cet argent.
Believe to real when I feel what my heart can't conceal.
Il s'est inspiré des romans, en particulier. Il y a un roman qui n'est pas un des plus connus, mais un roman d'Alphonse Daudet, qui s'appelle L'Immortel. Ah. Alors là, il a transféré ça, non pas à l'Académie des sciences, mais à l'Académie française.
C'est mieux.
Bon, mais le personnage qui était secrétaire perpétuel n'est pas sympathique du tout, contrairement à Charles. Bon, quand le poteau rose est découvert, Monsieur Astier-Réhu, qui était son nom, se jette dans la Seine depuis le Pont des Arts. Enfin bon, voilà.
Puisque tu parles de roman, c'est l'occasion de citer ton livre. Comment s'appelle-t-il, le livre que tu as écrit sur cette belle affaire?
Ah, il s'appelle Mystification à l'Académie des sciences.
Eh bien, je le recommande chaleureusement.
Yes, I'm the great pretender.
Alors, je voudrais peut-être généraliser la question ou la mettre un peu plus dans un contexte historique. 1860-1870, les Français ne sont pas tout à fait copains avec les Anglais. Donc, derrière tout ça, il y a une espèce de lutte franco-anglaise, d'une certaine manière, une jalousie que les Anglais aient eu Newton, ce grand génie, Nous aussi, on a eu des génies, peut-être pas au niveau de Newton, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y avait à l'évidence une compétition franco-anglaise.
Oui, alors ça, c'est tout à fait exact, parce que bon, les Anglais qui avaient brûlé Jeanne d'Arc, qui avaient fait mourir Napoléon sur un rocher, etc., bon, c'était quand même pas les amis intimes. Mais et alors, en fait, il y a eu cette répercussion patriotique. Bon, à l'Académie, non. L'Académie a été, d'un bout à l'autre, ce côté patriotique, revanchard, ne l'intéressait pas du tout.
Au 19e.
Au 19e, ben.
Parce qu'après, je te poserai la question, au 17e et au 18e.
Ah, non, non plus.
D'une certaine manière, la lutte entre, disons,
oui,
Descartes...
mais c'était la lutte, c'était la lutte aussi bien entre Français que qu'entre Anglais.
Et ça n'avait pas d'un côté les cartésiens, d'autre côté.
Oui, mais c'est au sein de l'Académie aussi.
Ah, d'accord. Donc c'était un débat scientifique.
C'était un débat scientifique qui n'avait pas de frontières. Bon, et qui est à l'intérieur. Alors là, il y a eu tout cet aspect de patriotisme. Thiers, Monsieur Thiers, a dit comment des mauvais Français qui voulaient, qui sont pas d'accord au fait que ça soit Pascal, notre gloire nationale, qui est éprouvé, alors ce Newton là qui a volé Pascal, mais ces Thiers c'était des mauvais Français qui n'étaient contre Charles. Bon, mais ça n'est pas passé dans l'Académie, ça, à aucun moment.
I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around.
Alors, peut-être pour terminer, on pourrait réhabiliter en quelque sorte le pauvre Charles dont tout le monde se moque. À commencer par le fait que nos auditeurs connaissent peut-être la relation de Charles, que l'on apprenait jadis en
troisième. Ah bah oui, moi je l'avais apprise.
AB plus BC égale AC. Moi je me souviens très bien quand j'étais en troisième.
Moi je l'avais appris sous la forme AB plus BC plus CA égale zéro.
C'est peut-être mieux. Et qui était intéressante parce que moi je me souviens très bien que quand on nous apprenait ça en classe de quatrième ou troisième, je me disais, mais il faut quelqu'un de célèbre pour inventer quelque chose d'aussi évident. Alors, je voudrais réhabiliter en essayant d'expliquer un peu cette relation de Charles. D'abord, Charles a fait beaucoup d'autres choses que cette relation de Charles. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand on faisait de la géométrie, on prenait un triangle, par exemple, et on abaissait une hauteur, eh bien, on distinguait plusieurs cas. Soit le pied de la hauteur tombe dans le côté opposé, ou bien il tombe à l'extérieur. Et quand on démontrait des théorèmes, on devait séparer un très grand nombre de cas. Et Charles est, je crois, le premier à avoir compris qu'on peut donner un signe à un intervalle et ainsi mettre ensemble un grand nombre de démonstrations en une seule et même chose. Simplement, le segment AB, il peut être négatif si ça va dans l'autre sens. Et ça, c'est un enjeu, un progrès majeur, je crois, dans la géométrie, de mettre toutes ces configurations différentes dans la même boîte. Donc là, merci, Monsieur Charles.
Mais ce qu'on ne montre pas quand on enseigne, enfin, quand on enseignait, peut-être plus maintenant, cette relation, mais surtout, Charles avait écrit des ouvrages de géométrie considérables, et il était très connu en Angleterre. Ben, il avait reçu cette récompense prestigieuse qui était la médaille Copley de la Royal Society qu'on ne donnait pas au premier venu. Et donc il était considéré comme le prince des géomètres.
Par ailleurs, Charles a écrit un livre majeur sur l'histoire de la géométrie, en particulier de l'histoire ancienne. Donc c'était un mathématicien très cultivé.
I play the game, but to my real shame.
Bon, on va résumer. Pascal est un grand scientifique, un grand physicien, pas un grand astronome.
Non,
pas du tout.
Pas du tout.
Hein? Lucas était un roublard, mais pas bête du tout non plus.
Un autodidacte.
Voilà. Et Newton, pas mal du tout non plus. Et on peut ajouter que Charles, s'est fourvoyé un peu, il est tombé dans des travers un peu discutables, mais il reste ce que tu as dit au début, il était fort sympathique.
Oui, et un grand mathématicien.
Et il a une rue tout près de la gare de Lyon, n'est-ce pas ?
Une toute petite rue, elle n'est pas très longue, mais l'autobus l'emprunte.
Petite histoire de science. Étienne Gis. podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.